Passagem de nível com Arthur Silva.
Bonjour à toutes et à tous, passage à niveau, c'est dimanche 28 avril de 2024, effectivement. Ça fait 50 ans qu'il y a eu la révolution des aéros au Portugal et on va avoir le témoignage de Madame Christine Pires Beaune, députée apparentée socialiste et vice-présidente du groupe d'amitié France-Portugal, l'Assemblée nationale française. Le département 94, on va voir qu'est-ce qui s'est passé entre 2021 et 2024, trois années de gestion avec une majorité de droite. Avec nous, Madame Fatia Aghoun, présidente du groupe Val-de-Marne en commun. On va continuer à parler du 25 avril, mais au sujet du livre La Révolution des œillets, regarde un correspondant du Monde à Lisbonne, édition L'Atelier. José Rebelle est passé chez nous ce matin. Ce moment doit être en train de déjeuner et de parler justement de l'union publique. Changer de vie, la vie et l'œuvre de José Mário Branco, documentaire de Nelson Guerrero et Pedro Fidal, qu'on pourra voir au ciné Malraux de Bondy. Ça sera le 4 mai. Et on parlera également d'un concert à l'Olympia de Paris, le 8 mai, avec Pedro Brunhoz et surtout avec le groupe de Kent Linchon, Os Camponeses de Pillage. Mais avant tout, on va un chemin pas encore vers le... D'où? Vers Clermont-Ferrand. Madame Christine Pires, bonne, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Alors, je rappelle, vous êtes députée du Puy-de-Dôme, apparentée socialiste et vice-présidente du groupe d'amitié France-Portugal. Alors, le 25 avril, bon, c'était avant-hier, quelque chose comme ça, 50 ans du 25 avril, quel souvenir vous avez? Parce qu'en 1974, vous aviez 10 ans, sauf erreur de ma part.
Ah oui, j'avais 10 ans et je n'ai pas de souvenir à 10 ans, en tout cas dans ma famille. Mmh. Mes parents ne parlaient pas politique. Mes parents ne savaient à peine lire et surtout pas écrire. Et il n'y avait pas de journaux non plus à la maison. Donc je n'ai pas de souvenir à 10 ans de cette révolution. Par contre, je me suis forgée ensuite, des convictions et j'ai découvert cette révolution à l'âge adulte, en fait. Mmh. Et forcément, en tant que franco-portugaise, je me suis intéressée à l'histoire de mon pays. Donc voilà, c'est une découverte un peu plus tardive une découverte qui m'a donné envie, en tout cas, quelques années plus tard, de créer cette association qui, dans le Puy-de-Dôme, commémore cette révolution.
Oui, tout à fait, parce qu'il y a un certain nombre d'événements qui sont en train d'être faits à Clermont-Ferrand. Donc demain, par exemple, il y a l'historien Victor Pereira qui va participer à un débat à Clermont-Ferrand. Même le mardi 30 avril, ce sera un autre historien, Sciences Po, etc., Yves Léonard, autour de ses ouvrages, C'est les œillets de la Révolution, et ça sera à Clermont également. Mais madame les députés, quand on parle du 25 avril, c'est la démocratie. Votre papa et votre maman aussi sont venus en France à cause de la misère, parce qu'ils ont dû émigrer. Oui. Et donc ça nous oblige à réfléchir un peu, d'autant plus que Clermont-Ferrand, à un moment donné, grâce ou à cause de Michelin, ils sont allés chercher plein de travailleurs au Portugal.
Effectivement. Ouais, ils avaient Michelin avait un monsieur dont j'ai oublié le nom, qui était chargé d'aller recruter au Portugal et d'organiser la venue de travailleurs portugais pour Michelin. Donc, mes parents, effectivement, font partie de cette émigration économique très, très importante, qui n'était pas la première émigration portugaise. D'ailleurs, les années 60, les Portugais avaient émigré, on le sait un peu moins, mais avaient émigré bien plus tôt, et notamment certains avaient même participé à la Première Guerre mondiale. Hein. Ça, on le sait un petit peu moins. Mais c'est vrai que la grosse vague d'émigration, des années 60, dont font partie mes parents, avaient été aussi accompagnés de certains émigrés politiques, de certains jeunes qui fuyaient les guerres coloniales, de certains intellectuels, de certains politiques à l'image de Mario Suarez, enfin voilà.
Mais en même temps, c'est-à-dire, quand on voit avec du recul, aujourd'hui, bon, malheureusement, les bidonvilles sont à nouveau devant nous, dans les environs des grandes villes. Les Portugais sont passés par des bidonvilles, disons que 50 ans après, finalement, parce que les bidonvilles, surtout dans la région parisienne, ont été résorbés au début des années 70, 72, 73. Par là, c'était qu'est-ce qui se passait derrière l'immigration? C'est quelque chose qui, ça se renouvelle dans le mauvais sens du terme, non, madame la députée?
Oui, l'histoire bégaye, l'histoire se répète, vous avez totalement raison. Alors, avec d'autres peuples, mais c'est la même histoire de misère. Et j'ai coutume de dire, de toute façon, vous pouvez construire tous les murs que vous voulez. Quand une mère de famille, quand un père de famille n'a pas de quoi donner manger à ses enfants, eh ben, il émigre. Voilà. Et bien souvent, il émigre dans des pays voisins. L'émigration, elle se fait surtout de l'émigration, la plus forte émigration africaine, elle est inter-africaine. Elle se fait de pays africain à pays africain. On l'oublie aussi. Hein. C'est surtout des immigrations, encore une fois, vers des pays voisins. Bon, les Portugais ont émigré vers la France, vers la Suisse, vers l'Allemagne, vers le Brésil aussi, vers les anciennes colonies, évidemment. Et aujourd'hui, quand on voit les dernières élections, évidemment, législatives au Portugal, je ne peux pas ne pas en parler, et notamment deux députés des Portugais de l'étranger qui rejoignent le parti Chega, on se dit qu'on a pourtant une révolution récente, puisque 50 ans c'était hier, donc un passé récent, et on a l'impression qu'on ne tire pas les leçons du passé, malheureusement.
Alors justement, par rapport à l'extrême droite au Portugal, 2019, ils ont élu deux députés, 2022, 12, 2024, donc le 10 mars dernier, 50 députés. Alors si on regarde un petit peu ce qui se passe du côté espagnol, avec Vox, si on regarde qu'est-ce qui se passe ici en France, qu'est-ce qui se passe en Allemagne, dans d'autres pays, Qu'est-ce qui se passe, madame la députée? Il y a quelque chose qu'on a du mal à comprendre vers quoi on va. Est-ce qu'on dérive? Il y a une dérive. Qu'est-ce qui se passe?
Il y a tout simplement une mondialisation heureuse pour certains et une mondialisation, en tout cas, qui laisse énormément de gens de côté. Et donc on a parce que c'est pas moi en tout cas je n'explique pas ce phénomène de montée des extrêmes droites, et vous avez raison de le dire, partout en Europe, uniquement par la question du racisme. Je crois que beaucoup de gens votent extrême droite par désespoir, parce que les politiques jusqu'ici ont échoué à faire que la mondialisation, elle soit heureuse pour tout le monde. Mais ce qui se passe chez nous, quand vous regardez, quand vous analysez le vote de l'extrême droite, vous voyez qu'il y a le vote des métropoles et puis il y a le reste. Il y a ce vote notamment rural, périurbain, qui fait que l'extrême droite, il fait ses meilleurs scores. Parce que oui, on n'a pas que le sentiment. On a aujourd'hui un abandon de services publics, notamment dans certains territoires, ou un recul de services publics. Quand vous n'arrivez pas à vous soigner, que vous n'arrivez pas à trouver un médecin, quand vous êtes à une heure de l'hôpital, oui, vous angoissez. Quand vous n'arrivez pas à trouver un médecin à Clermont, c'est pas grave, vous avez le CHU à 5 minutes. C'est un exemple parmi d'autres, mais et quand moi je vais au Portugal et que je regarde ce qui est devenu Cidade da Guarda aujourd'hui et ce qu'elle était il y a 30 ans quand j'y allais en vacances, je me dis que la métropolisation, la mondialisation, ne fait pas que des heureux.
Loin s'en faut. Alors justement, c'est qu'on assiste à l'augmentation des précarités. Et l'exclusion sociale, il suffit de voir, selon les chiffres des Enedis, il y a eu 1 million de factures impayées, etc. On coupe l'électricité, on coupe, etc., etc. C'est ça, d'après vous, le terreau pour l'extrême droite? Parce que qu'est-ce qu'ils proposent exactement?
Alors, vous avez un changement dans le discours, je dis bien dans le discours, effectivement, de l'extrême droite, qui semble devenir un discours social. Enfin, moi, je les pratique aussi à l'Assemblée nationale, et certaines de leurs mesures vont exactement dans le même sens. Je dis bien certaines, mais quand ils refusent, par exemple, d'augmenter le SMIC, je dis ça reste du discours racoleur pour effectivement attirer cet électorat-là qui soit ne vote plus, soit voter à gauche ou à droite il y a encore quelques années.
Bon, ça veut dire qu'on a une tâche importante devant nous pour défendre la démocratie.
Oui. Ben, pour tous les démocrates, pour tous les amoureux de la démocratie, il y a une évidence, dès le 9 juin, dès les élections prochaines, mais encore faut-il que l'Europe change. Moi, je ne suis pas une admirative béate de l'Europe telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, et je suis une Européenne. Profondément, profondément européenne. Mais je reconnais que les échecs de l'Europe conduisent aussi à la situation qui fait que toutes les extrêmes droites, y compris en Allemagne, ce qui est voilà, là aussi terrible, grimpent à vive allure.
Enfin, bon, je veux dire par là que bon, c'est à suivre de quelle façon, mais là, il faut que chaque citoyen s'assume aussi. Madame Christine Pirschbone, merci et bonne route. Je sais que vous allez prendre la route. Merci.
Oui,
bien.
Alors là, je vais à une autre commémoration dans le Puy-de-Dôme. Il y a eu vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de manifestations. Hier, à Ménétrol, on avait 270 personnes et c'est sûrement la plus belle fête on l'a fait tous les ans. Ces 20 dernières années, c'était vraiment l'édition la peut-être la plus belle avec vraiment une ambiance magnifique.
Merci Madame la députée, à très bientôt.
Merci à vous.
Merci.
Au revoir.
Alors on vient ici au studio, Madame Fatia Aghoun, bonjour et merci d'être venue jusqu'au studio. Bon, le lac de Crété, c'est ça qui nous sépare, non?
Bonjour à toutes et tous, effectivement. Je suis dans un département, le département du Val-de-Marne, qui est un département dense, mais qui est un département où on peut circuler aussi. Donc, effectivement, je ne suis pas loin de votre radio.
Voilà. Alors, il faut dire aussi que vous avez été élu dans le canton de Kremlin-Bicêtre. Alors, Gentilly, Kremlin-Bicêtre, etc. Vous êtes présidente du groupe Val-de-Marne en commun. Avec madame la députée Christine Pirschbone, on a parlé de démocratie, on a parlé d'élection de 50 députés d'extrême droite au Portugal. On connaît ici la situation, justement, la démocratie aujourd'hui, vous croyez qu'elle peut être en danger?
Effectivement, la démocratie aujourd'hui peut être en danger par ses choix aussi libérales, parce que la démocratie, c'est aussi, pour, à mon sens, une question à la fois de progrès social. Et aujourd'hui, le progrès social est en panne. À la fois ici en France, mais aussi dans les pays européens. On ne peut que s'alarmer, comme vous l'aviez évoqué, effectivement aujourd'hui, en 2024, 50 députés du parti de la Chega qui sont arrivés au Portugal, c'est assez inquiet.
19%, environ 19% des voix.
Donc on ne peut que s'inquiéter pour un pays qui jusqu'alors était aussi, on va dire, épargné par cette poussée de l'extrême droite qui effectivement ne peut que nous inquiéter et qui doit aussi, pour les forces progressistes, nous amener à être à la fois fort mobilisé face à cette poussée de l'extrême droite.
Alors, dans le 94, je pense que ce n'est pas encore la situation, hein, c'est quand même l'extrême droite. Mais parlons justement, vous êtes présidente du groupe Val-de-Marne en commun, donc on parle là du conseil départemental du Val-de-Marne. En juin 2021, bon, aujourd'hui, on est déjà le 28 avril 2024, et vous êtes votre groupe d'opposition, vous êtes assez critique avec la gestion de la majorité de droite, notamment de M. Olivier Capitanio, qui est le président.
Effectivement.
Mais vous êtes vraiment sans... Vous le critiquez sévèrement.
Sévèrement, mais justement et fermement. Parce qu'effectivement, depuis le 1er juillet 2021, ce département est dirigé par la droite, à une gestion qui, pour nous, est assez contestée et effectivement avec des politiques qui sont mises en place depuis maintenant presque 3 ans, des politiques que je qualifie effectivement d'austérité, des politiques qui amènent aussi à exclure une partie, pas les moindres, de la population val-de-marnaise. L'une des premières décisions, rappelons quand même, c'est la suppression des chèques solidarité pour lequel près de plus de 70 000 Val-de-Marnais et Val-de-Marnaises bénéficient en fin d'année, avec aussi la suppression des fêtes des solidarités qui, rappelons-le, étaient un moment à la fois de convivialité, mais aussi de partage. Mais c'était aussi le moment où les personnes pouvaient aussi avoir des éléments, des informations concernant leurs droits. C'était aussi le soutien indirect à la vie associative, puisque nous avions des associations qui étaient présentes, qui participaient à cette solidarité, parce que pour nous, en Val-de-Marne, le bouclier social est un élément important dans nos politiques publiques.
Mais, Madame Agoun, justement, alors, plus de subventions pour la Ligue des droits d'homme, plus de subventions pour la CNL, pour les comptes comme ça, la Maison des syndicats. Donc, c'est...
C'est des choix politiques assumés par la droite, mais des décisions effectivement d'exclure, de punir des associations qui ont effectivement la liberté associative est un droit en France. Donc chaque association a le droit d'avoir une expression. Effectivement, le président du département a supprimé la subvention à la Ligue des droits de l'homme du Val-de-Marne. Il a d'ailleurs, pour rappel, anticipé les propos de Monsieur Darmanin, souvenez-vous à l'époque, qui invitait les collectivités à revoir les subventions à la Ligue des droits de l'homme. Et puis, concernant la CNL, qui est quand même la première association...
La Confédération nationale du logement.
Est une des premières associations départementales en matière de défense des locataires dans ce département, qui a fait effectivement une campagne pour dénoncer certains maires et certains choix politiques de ne pas construire de logements sociaux dans leur ville. Donc ils ont dénoncé et M. Capitagno a décidé de supprimer simplement leur subvention de fonctionnement.
Alors justement, parlons de... le gouvernement a annoncé la modification de la loi SRU. Se reporte au département 94... Il y a 100 000 familles qui attendent un logement. Alors, entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Parce que, bon, déjà, au début, ça faisait partie de la campagne, hein, de la droite. Ça concernait toutes les villes qui avaient plus de 25% de logements sociaux. On a d'autres, sans mort défaussée, pour ne pas le nommer, qui est à peine 2%. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision du gouvernement de modifier la loi SRU? Et tout ce qui se passe depuis 2021 au niveau des logements dans 94.
Alors moi, je la qualifierais de cette décision de scandaleuse. Scandaleuse parce que, comme vous l'avez rappelé, plus de 100 000 demandeurs de logements en Val-de-Marne. Moi, je rencontre des personnes dans le cadre de mes permanences qui sont en attente d'un logement. Des familles avec des enfants, notamment, qui se retrouvent dans des hôtels, alors qu'aujourd'hui... s'il y avait une volonté politique de construire du logement social dans des villes qui ne respectent pas la loi SRU. Et effectivement, la décision, en tout cas de Gabriel Attal, d'intégrer des logements locatifs intermédiaires dans le cadre du calcul de la loi SRU, c'est une réponse claire et nette aux maires qui ne respectent pas la loi SRU dans notre département. C'est clairement... d'ailleurs, quand... Saint-Maur, qui a à peine effectivement 10% de logements sociaux, a d'ailleurs même déposé un vœu pour appuyer les annonces de Gabriel Attal sur pour moi, je qualifie de destruction de la loi SRU.
Mais Madame Agoun, on vous dit qu'il y a un problème avec le foncier. On ne peut pas dire le contraire. Un certain nombre de villes qui ont un problème de foncier.
Alors oui, le foncier est un problème. Est une vraie question. Mais je crois bien qu'il y a des villes, et notamment en proximité de Paris, qui ont fait le choix de construire du logement social, où d'ailleurs le foncier est extrêmement cher. Donc, des villes comme Saint-Maur, Je veux bien qu'on me dise que le foncier est cher, mais ça dépend pour quel type de logement. Donc, il y a des, effectivement, il y a une volonté de la part de ces villes de trouver tous les superfruges pour ne pas répondre aux besoins des populations en Val-de-Marne.
Donc, ça veut dire que les pauvres, on les envoie où? Quand on critique, un exemple même, Créteil, Champigny, je pourrais compter dans le Val-de-Marne, ça manque pas. Hein, des villes qui dépassent largement les 25%, il y a même certains endroits, c'est 40% logements sociaux. Bah, qu'est-ce qu'on va faire des pauvres, où ils vont-ils loger? Quand on sait également que on travaille dans un endroit et on vit dans un endroit assez lointain, le problème des transports, etc., etc., qu'est-ce qu'on fait des pauvres, là?
Eh ben, les pauvres, pour certains qui en ont une vision justement du logement social où on ne parle que des pauvres, mais le logement social, c'est pour tous et toutes.
Les classes moyennes.
Voilà, les classes moyennes aussi. Ce sont aussi des enseignants, des travailleurs et travailleuses hein, qui se lèvent pour certains très très tôt. Donc la question, c'est comment aujourd'hui on répond à cette demande et non en stigmatisant le logement social. Parce que quand on nous reproche à nous, quand notre groupe interpelle en séance la majorité, et qu'on nous reproche de faire du logement notre fonds de commerce, et qu'on qualifie de ghetto le logement social, c'est scandaleux. C'est scandaleux parce que c'est un mépris vis-à-vis des populations qui vivent dans du logement social. Donc ça, nous ne pouvons pas l'admettre, et c'est vraiment un mépris. Tout simplement.
Mais en même temps, on ne peut pas dire que ce n'est pas des ghettos. Ce sont des ghettos. Les services publics, sont disparus complètement. Les permanences de la CAF, les permanences de la Sécurité sociale, même les PMI, etc. Tout un tas de trucs sont disparus. Les commerces, avec les grands centres commerciaux, ça tout autour. C'est qu'on veuille ou pas, c'est complet. Les habitants de certains nombres de quartiers sont isolés de la vie, entre guillemets, de la société. Parce que ça n'empêche que ce nombre de quartiers a plein de choses positives qui se passent, il y a une vie sociale. Mais ça n'empêche que, de fait, qui c'est qui a démissionné? C'est le pouvoir local, c'est l'État, que c'est qui?
Bah, je dirais avant tout, c'est l'État. C'est l'État par son désengagement envers les collectivités territoriales. Déjà de réduire à la fois les moyens aux collectivités territoriales. C'est aussi aujourd'hui un manque de vision pour ces quartiers populaires, mais pour l'ensemble aussi de notre tissu urbain, où aujourd'hui, effectivement, les services publics que vous évoquez ne sont plus présents. Et il y a une vraie problématique sur le service public. Et aujourd'hui, quel service public nous voulons pour les populations, notamment en Val-de-Marne?
J'ai pas nommé les bureaux de poste qui sont fermés dans le 94. Il y a une bonne dizaine minimum, non?
Effectivement, il y a eu des bureaux de poste fermés dans ce département.
Les uns après les autres,
malgré les batailles que nous avons menées avec les populations pour un maintien de ce service public postal, en tout cas tel que nous le concevons en Val-de-Marne.
Alors, Monsieur le Président, demandez, faites des enfants. Bon, c'est très bien, faire des enfants. Sous-entendu, peut-être pour faire la guerre un peu plus tard. Je suis mauvaise langue, là, je m'excuse. Mais enfin, bon, ça n'empêche que c'est de faire des enfants, ça suppose un certain nombre de structures. À commencer par les crèches. Le département dit, bon, ils ont, d'ailleurs, le dernier communiqué de la commission permanente, parle exactement, c'est un nombre de financements, nouvelles crèches qui sont ouvertes. Mais vous, dans un communiqué, vous dites, les crèches dans Val-de-Marne, un bien commun à préserver. Il est menacé?
Pour nous, oui, elles sont menacées. En tout cas, il y a des vraies problématiques d'accueil et d'enfants dans les crèches départementales. Aujourd'hui, nous avons presque 900 berceaux fermés en Val-de-Marne.
Par manque de personnel?
Par manque de personnel. Par manque, effectivement, aussi de volonté. Pour nous, nous avons demandé une mission d'information et d'évaluation.
Le 11 décembre.
23. Voilà, le 11 décembre, qui a été examiné lors de la séance du 11 mars dernier, pour lequel C'est une mission qui est dans le cadre du règlement intérieur du fonctionnement du conseil départemental. Nous n'avons eu, il y a eu un vote contre, ça a été refusé par la majorité départementale. Nous avons souhaité cette mission d'information et d'évaluation pour un travail collectif, pour se poser, pour avoir une réflexion commune, pour apporter des solutions face à cette situation qui nous inquiète fortement en Val-de-Marne, en tout cas nous, l'opposition, puisque rappelons quand même qu'aujourd'hui nous avons eu 81 crèches départementales, donc la moitié des crèches départementales de France. Rappelons que c'est une politique volontariste. D'ailleurs, nous avions lancé à la dernière mandature la création de plus de 590 places en crèche départementale.
Et à la présidence, il y avait M. Crécy-Fravier, c'est ça ?
Voilà. C'est... Donc, il y a toujours eu cette volonté politique d'accueillir les jeunes enfants en Val-de-Marne, mais aussi avec un projet éducatif, parce que ce n'est pas que de la garderie. Il y a vraiment un travail et un projet éducatif derrière. Mais c'est surtout, effectivement, des postes en moins. C'est aussi de l'investissement en moins dans les crèches. Je veux juste rappeler qu'aujourd'hui, les crèches qui sont inaugurées par la majorité départementale de droite, ce sont des crèches que nous avons initiées. Voilà.
Donc c'est aussi, c'était déjà programmé.
C'était déjà programmé. Vous savez, hein, aujourd'hui, tous les rubans que coupe M. Capitanio, ce sont des projets qui ont été initiés par la majorité conduite par Christian Favier. C'est important de le rappeler parce que ce sont des projets, vous savez, quand on parle de projets, de politique publique, c'est des projets qui sont réfléchis, travaillés bien en amont et que c'est dans le temps qu'ils se réalisent.
Et d'ailleurs, vous m'aviez dit, bon, on était hors antenne, justement, c'était des investissements, donc c'était pas une dette. Mais enfin, alors, bon, sans oublier cette histoire de crèche, parce qu'en sachant le nombre de femmes qui vivent toutes seules avec des enfants, surtout c'est les femmes qui vivent, au point de vue emploi, davantage en précarité, des horaires à rallonge, commencer très tôt, etc., finir tard, sans oublier les transports, mais enfin, sans crèche, pour les enfants, galère. Alors, si on parle des enfants, bon, on laisse un petit peu les crèches, allons au primaire. Le primaire, c'est de la responsabilité. Le primaire, c'est de la responsabilité des municipalités. Mais enfin, ça n'empêche que c'est entre les crèches et les collèges. Enfin, bon, là, c'est des municipalités qui disent, oh, je sais pas quoi, c'est l'État qui m'aide pas, c'est le département. Mais par rapport au collège, on sait très bien qu'il manque des professeurs. Il y a des conditions de travail des élèves, sans oublier bon le problème d'isolation, j'en passe les meilleurs. Monsieur Gabriel Attal est venu à Viry-Châtillon, justement. Alors tout ce qui parlait, c'était de la violence au sein des établissements scolaires. Bon, en réalité, ça se passe devant un truc comme ça, mais enfin, ça n'empêche que pour vous, bon, la violence est une réalité, mais il y a d'autres choses plus importantes à résoudre avant.
La violence est malheureusement une réalité, mais ce qui nous préoccupe et sur lequel il faut aussi agir, c'est sur les moyens à l'éducation, pour l'éducation nationale. Nous, depuis des années, notre groupe portons un vœu, sommes aux côtés des parents d'élèves, des équipes éducatives, pour un plan d'urgence en Val-de-Marne. Ça passe par des moyens humains, c'est-à-dire qu'il faut aussi des adultes dans les collèges. Il faut permettre aux élèves d'avoir des conditions d'apprentissage les plus optimums. Les élèves ont besoin d'avoir effectivement à la fois des enseignants, des équipes éducatives qui soient aussi à leur côté. Et quand on parle d'une équipe éducative, c'est un collectif. Donc on a besoin de plus d'adultes dans les collèges. Et c'est-à-dire, quand on voit, je vais vous prendre un exemple concret. Moi, je suis conseillère départementale sur le canton du Kremlin-Bicêtre-Gentilly. Le collège Albert Cron, pendant des mois, des élèves n'ont pas eu de prof de français. Pendant des mois. Est-ce que c'est acceptable aujourd'hui que des élèves ne puissent pas apprendre, ne puissent pas avoir un enseignant, c'est un droit. Le droit d'étudier en France est un droit sacré.
Le droit à l'éducation. Hein.
Voilà. Donc, il faut que, au lieu de nous, tous les jours, de nous faire des coups de communication, M. Attal devrait prendre à bras-le-corps la question des moyens et d'une école républicaine avec un accès au droit égal pour l'ensemble des élèves.
Mais déjà, bon, il faudrait peut-être commencer par payer les profs convenablement. La France, si on regarde les pays de l'OCDE, les profs, vraiment, ils ont des salaires nettement plus bas. Ils sont en dessous de la moyenne, en dessous de la moyenne. Ça ne dit pas comment recruter des profs. Comment faire?
Eh bien, effectivement, il y a la question de la revalorisation, mais aussi donner du sens au travail et arrêter de faire du bashing des profs, parce que il y a quand même aussi une crise de vocation des professeurs aujourd'hui.
Mais Madame Agouni, il y a aussi des profs qui sont agressés verbalement. Et quand on voit un certain nombre, il y a des programmes que ça pose des questions à des élèves, entre guillemets. Je ne sais pas si les élèves, c'est aux parents d'élèves. Ça pose un problème, des discussions, et on peut dire que les profs aujourd'hui sont un petit peu perdus, et la hiérarchie, ça ne les soutient pas. Donc il y a un problème global qui concerne toute la société. Il n'y a pas que les profs qui doivent régler des problèmes, ce n'est pas à eux de le faire.
Alors effectivement, les mots MAUX de la société ne doivent pas être uniquement... c'est pas l'école qui va les régler à elle toute seule. Pour moi, l'école, l'éducation est aussi le lieu d'émancipation. C'est aussi le lieu où les enfants, les élèves, apprennent des savoirs, on transmet des savoirs, mais c'est aussi le lieu où on s'éclaire, où on apprend à être des citoyens en devenir. Donc c'est aussi travailler, réfléchir à ce que l'école aujourd'hui elle est. Mais je suis aussi convaincue que les moyens alloués à l'éducation nationale ne sont pas à la hauteur des besoins. Et quand on voit que dernièrement on réduit de près de 700 millions d'euros le budget qui était alloué à l'éducation nationale, ce sont bien des choix et une vision aujourd'hui de ce gouvernement sur les questions d'éducation.
Mais enfin, l'école n'est pas isolée du reste. Quand on voit cette situation de précarité, etc., pour les jeunes, quel avenir pour les jeunes? Mais enfin, avant, on avait des utopies, on avait des rêves. Aujourd'hui, les jeunes, qu'est-ce qu'on leur propose? Pour passer à autre chose, le RSA, c'est très important, parce que ça faisait déjà partie du programme de M. Capitanio, donc en 2021. Vous avez des numéros par rapport aux fermetures de classes dans le département pour le prochaine année scolaire ou pas?
Alors, les derniers chiffres que j'avais étaient autour de 37 fermetures de classes. Mais à vérifier, je n'ai pas les derniers chiffres, donc je ne vais pas induire les auditeurs.
Alors, parlons de fameux RSA. Sous condition appliquée dès 2024 en Val-de-Marne. Bon, ça faisait partie des propositions de la majorité de droite. Quand elle est devenue de majorité en 2021?
Ah oui, ça a été même leur obsession. Ça, effectivement.
Donc il n'y a rien de nouveau, mais quand on lit votre communiqué, on dirait que bon.
Ah non, il y a effectivement, il n'y a rien de nouveau sur la vision de la droite départementale, sur les allocataires du RSA, parce que, effectivement, comme si les allocataires du RSA vivaient le RSA comme une fin en soi.
Il faudra peut-être rappeler les chiffres.
Alors aujourd'hui...
Ça dépasse un petit peu, bon, ça dépasse les 500 euros par mois.
On est l'allocation RSA pour une personne seule. Alors, je ne vais pas vous dire un chiffre. On est autour de 500, un peu plus de 560 euros.
Mais c'est... avec ça, on vit bien. On peut partir en vacances, on va sur la Côte d'Azur, non? C'est ça qu'on dit un petit peu. On a le RSA, on ne veut pas travailler.
Bien. Ça, c'est effectivement les stéréotypes et les clichés que, effectivement, l'imaginaire collectif porte, mais c'est aussi porté... par la classe dominante qui ne vise qu'à diviser effectivement ceux qu'ils ont le moins entre eux. Donc, pour revenir à la politique de l'allocation RSA par la majorité de droite, effectivement, aujourd'hui, nous sommes sur une politique qui est excluante, qui ne prend pas en compte les problématiques sociales des allocataires du RSA. Pour rappel, aujourd'hui, le nombre d'allocataires du RSA en Val-de-Marne, c'est 43 241.
Et on pourrait peut-être le multiplier par deux ou par trois, les gens qui ont le droit.
Et leur ayant droit.
Et qui n'ont pas fait la demande.
Voilà, exactement. Le non-recours, c'est presque 30% de personnes qui ne sollicitent pas le RSA alors qu'ils pourraient y prétendre. Donc, effectivement, c'est une politique qui ne met pas, qui ne prend pas en compte les freins pour lesquels les allocataires du RSA subissent aujourd'hui, notamment sur la question, tout à l'heure on parlait des modes d'accueil qui est aussi un frein, notamment pour les personnes allocataires du RSA dans leur recherche, dans leur recherche d'emploi. Et puis la question près de, c'est aussi la question des problèmes de santé qui sont effectivement un frein pour les personnes. Moi, vous savez, je rencontre des personnes en tant qu'élue quand je marche dans ma ville ou ailleurs. Quand vous avez des allocataires du RSA qui ont plus de 60 ans, qui veulent travailler, mais qui ont des problématiques de santé plus et qui ne aujourd'hui sont malheureusement en attente d'une retraite, mais bon, compte tenu de la dernière... voilà, exactement. Et puis, la réforme des retraites n'accélère qu'un processus de précarisation, notamment des allocataires du RSA en particulier. Donc, une politique de droite hein, qui assume clairement une orientation stigmatisante et punitive hein, de la part... de cette droite qui, d'ailleurs, pour rappel, dans la presse, souvenez-vous, en tout cas, Monsieur Capitano qui disait clairement que le but de la diminution de l'allocation, c'est de provoquer un électrochoc pour que la personne revienne nous voir. Donc, si c'est cette façon d'accompagner les allocataires du RSA, elle nous semble... inadmissible et surtout intolérable pour des gens qui vivent avec très peu.
Madame Agoun, revenons un petit peu au 1er mars. Hein. C'est dans un déplacement dans les Vosges que le Premier ministre a annoncé l'expérimentation du RSA sous conditions qui serait étendue cette année à 47 départements. Donc le Val-de-Marne fait partie de ces départements. Concrètement, qu'est-ce que vous critiquez dans la mesure qui va être appliquée dans le Val-de-Marne? Parce que bon, on a parlé contre le principe, mais concrètement, qu'est-ce qui va se passer dans le Val-de-Marne? Quelle décision a été prise?
Ben justement, le département du Val-de-Marne a décidé d'expérimenter ces 15 heures de travail, hein, puisque c'est comme ça que nous on le qualifie. Ouais. Pour l'instant, nous avons très peu d'éléments. Puisque cette décision, en tout cas, va être soumise à l'Assemblée départementale, puisqu'il y a l'obligation d'avoir un vote. Donc aujourd'hui, les éléments qui nous ont été fournis oralement par le président nous semblent encore pas clairs.
Apparemment, ce serait de réaliser 15 heures d'activité hebdomadaire.
Voilà, c'est les 15 heures réalisées.
Quelle activité, dans quelles conditions, etc., etc.
Ben, pour l'instant, nous avons très peu d'éléments. Ça nous a été dit à l'oral. D'ailleurs, nous l'avons appris par la presse. Nous l'avons appris comme ça, par la presse. L'exécutif, M. Capitano, nous a informé par la suite, mais nous aurions préféré quand même avoir le débat en amont au lieu de l'avoir, en tout cas de voir dans la presse les décisions prises par cet exécutif.
Et une petite question subsidiaire. Très bien, 15 heures de travail, bon, d'activité en plus, bon, on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Hebdomadaire, s'il faut se déplacer, la carte Nivigo est remboursée, n'est pas remboursée, je ne sais pas, je pose une question toute bête, hein, Madame Agoun.
Non, elle n'est pas bête, elle est très importante, hein, puisque on sait que effectivement les transports et en tout cas les moyens sont un frein aussi pour les allocataires du RSA. Donc cet élément, je pourrais pas vous donner une réponse, je ne l'ai pas aujourd'hui. Donc, mais c'est un vrai sujet. C'est parce que ces 15 heures d'activité aujourd'hui, nous n'avons aucun élément et on sait que c'est aujourd'hui les éléments qu'on a en tout cas au niveau national ne sont pas concluants, en tout cas positifs pour les allocataires du RSA. Ces 15 heures, ce que veulent les allocataires du RSA, c'est avoir un travail digne. Rémunéré.
Ça passe déjà par une formation alors, la plupart du temps.
Bien sûr, pour une partie des allocataires du RSA, ça passe bien évidemment par une formation, une remise à niveau, des actions qui concourent à remobiliser les personnes qui sont parfois très éloignées, très éloignées de l'emploi. Et donc, c'est un réel accompagnement, ce qui d'ailleurs aujourd'hui manque. Dans les politiques du départemental en matière d'insertion sur lequel nous avons eu beaucoup de communication, mais aujourd'hui nous attendons des éléments probants sur cette politique d'insertion.
Mais madame d'insertion. Agoune, c'est pas spécifique en 94 ça. Donc c'est pas spécifique la façon comme la droite gère le département du Val-de-Marne, parce que si on élargit un petit peu cet nombre de mesures, cette histoire d'élargir justement cette période d'expérience, ça vient du gouvernement. Donc il y a cet nombre de choses parce que d'autant plus que les départements. Revenons.
Me permettre.
Je vous en prie.
Effectivement, c'est une décision gouvernementale, c'était dans le programme de Monsieur Macron. Mais je rappelle aussi que c'était dans le programme de Madame Pécresse. Donc c'est bien les droites qui se rencontrent.
Bon, c'est une constatation, hein, comme une autre. Mais enfin, justement, alors, en bref, bien que c'est très important, l'histoire de finances. À l'époque de M. Favier, il se plaignait déjà que l'État devait au département des demi-milliards d'euros. Bon, 105 millions d'euros. C'était les dotations qui suivaient, ça augmentait d'année en année. La situation aujourd'hui, c'est toujours pareil. Ce qui concerne les départements, c'est même pire. Donc, comment on peut exiger à M. Capetino un certain nombre de choses quand les dotations du gouvernement baissent? Et quand les charges financières du département augmentent, comment faire?
Nous, sur quoi on est vraiment attaché, c'est effectivement à la mobilisation. Porter des exigences, se mobiliser, mais se mobiliser avec la population pour exiger des moyens aux collectivités territoriales. Bien évidemment, on est bien conscient que la situation des collectivités territoriales aujourd'hui est, en termes de finances publiques, est catastrophique, et d'autant plus qu'on a supprimé un levier fiscal, notamment pour les départements, aujourd'hui, où il n'a plus la possibilité de lever la fiscalité. Nous avons des recettes, il y a des recettes qui sont en baisse, qui est aussi une situation catastrophique, on peut le dire comme ça. Mais on a aussi un gouvernement qui aujourd'hui met encore plus à mal les collectivités et qui nous demandons nous sommes prêts à porter une mobilisation pour aller chercher les recettes et les moyens qui sont dus, qui doivent être donnés au département, puisque vraiment il assume aussi une compétence qui est l'action sociale quand aujourd'hui la situation se dégrade, notamment pour un nombre important de Val-de-Marnais et Val-de-Marnaises qui n'arrivent plus à boucler leur fin de mois.
Même pas arriver parfois au milieu du mois. Madame Agoune, il paraît qu'on va avoir les Jeux Olympiques et Paralympiques. On voit déjà les conséquences, je passe à l'expression, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer pendant environ un mois et demi, notamment au niveau des transports. On sait déjà galère parce qu'on travaille Et on habite, la distance des fois c'est 50-60 kilomètres, les transports en commun c'est difficile. Et entre-temps, au niveau de la région, vous avez co-signé un communiqué avec Madame Céline Malaisé, entre autres, au sujet de la ligne C. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe avec cette fameuse ligne C?
Alors, la ligne C, donc le RER C, hein, qui traverse notre département. Mmh. Donc, en 10 ans, la ponctualité de la ligne a baissé de 5 points.
Pardon, Madame Magoun, il n'y a plus de retard. Tout simplement, les trains sont supprimés.
Voilà, mais...
Il n'y a plus de retard.
Oui, donc aujourd'hui, il n'y a plus de retard parce que c'est la suppression de trains qui... aussi diminue soi-disant le
nombre de
c'est
retards.
De l'arithmétique, mais bon, la vie des gens, c'est pas de l'arithmétique. Donc effectivement, aujourd'hui les projets autour du RERC, c'est des trains, et je pense notamment à la gare de Choisy-le-Roi, qui est quand même la troisième gare du département, où on a des retards constants. Des trains qui sont bondés,
le matin et le soir bondés, ouais.
Voilà, et donc la situation des Val-de-Marnais qui empruntent cette ligne aujourd'hui n'en peuvent plus. Ils sont fatigués de cette détérioration des transports, et notamment sur la ligne C du RER, qui est aujourd'hui la rénovation des gares. Nous militons pour qu'il y ait une rénovation des gares telles que la gare de Choisy, et avant 2035.
Madame Gaune, on est pratiquement à la fin. Alors, à ce propos, vous allez inviter Madame Valérie Pécresse de prendre la ligne C de RER le matin très tôt?
Alors moi, je l'invite, je ne vais pas l'inviter, mais Madame Pécresse devrait prendre effectivement la ligne C, mais beaucoup de transports.
La ligne B, voilà, la liste est longue.
On peut lui faire un parcours si elle ne sait pas où aller, mais en tout cas qu'elle soit bien consciente qu'aujourd'hui les transports. Et j'invite les auditeurs et les auditrices à signer la pétition Stop Galère. Merci.
Et d'ailleurs, il y a 7 au nombre de réunions publiques et on essaie de les annoncer au fur et à mesure. Madame Fatia Aghone, merci. Je rappelle que vous êtes la présidente du groupe Val-de-Marne en commun. On a balayé un petit peu un certain nombre de problèmes concrets de la population val-de-marnaise. Et le mois prochain, au mois de mai, on va avoir ici, à votre place, Monsieur Capitanio. Voilà. Merci d'être venu chez nous.
Merci à vous. Obrigado. Et bonne journée aux auditeurs et aux auditrices de Radio Alpha. Merci.
Muito obrigado. Nós voltaremos depois das 13.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Entramos na segunda hora da Passagem de Nível neste domingo, dia 28 de abril, emissão Relembro, com a redifusão da noite de terça para quarta-feira, a partir das 0 horas. Sem esquecer o podcast, sem esquecer igualmente que hoje é dia 28 de abril. Pois bem, em Ormesson-sur-Marne, no Centro Cultural Vladimir Ormesson, a partir das 17 horas, a peça teatral Soldado Ici e Là-bas, que vai ser representada, isto antes precisamente da companhia ir representar esta peça, a partir já de amanhã no estúdio Héberto, em Paris 17. Mas para já, o encontro, quanto mais ou seja para aqueles que vivem no Val-de-Marne, Centro Cultural Vladimir Ormesson, às 17 horas, Soldado Ici e Là. Um texto de Isabel Ribeiro, mise en scène d'Alexis Dessau, com Isabel Ribeiro, Danninger dos Santos e Simon Cantana. E começamos esta segunda hora com um livro, La Révolution des œillets, du pouvoir populaire au pouvoir parlementaire, é o olhar precisamente de um correspondente do jornal Le Monde em Lisboa, um livro nas edições Atelier. José Rebelo esteve hoje de manhã aqui nos estúdios, não podia estar esperar até esta hora, gravámos a entrevista, tanto mais que ele neste precisamente está num jornal, num almoço, assim é que é. Já estou passando o jantar. Está no almoço, precisamente, à volta do 25 de abril e depois será seguido por uma reunião. Mas aqui fica José Rebelo, antigo jornalista.
Falmes do livro La Révolution des œillets, du pouvoir populaire au pouvoir parlementaire, José Rebelo e Maria Inácia Rezol. Maria Inácia Rezol, uma historiadora, e que ela também que é comissária das comemorações do 25 de abril de 74. De maneira que há 50 artigos seus, que vão até à eleição presidencial de 1976, e isto, tudo isto é contextualizado a nível historiográfico, precisamente por Maria Inácia Rezola. Mas no seu livro, um historial é bastante importante porque foca aquilo que se passava quase diariamente. Ora, a pergunta que eu faço é que fazer jornalismo ao quente, como se costuma dizer, não é nada evidente, de maneira que a informação, antes de ser lida, tem que ser construída. Ponho construída entre aspas, não é? E isto, partimos de fragmentos. Na urgência, temos que cruzar as fontes e depois temos que contextualizar os acontecimentos. É um quebra-cabeças, não?
É, e há sempre um risco nestas ocasiões, sobretudo quando há acontecimentos que mobilizam muito a opinião pública e mobilizam muito o jornal, e há um risco de seguir de demasiado perto os acontecimentos. E nessas ocasiões não ter condições para fazer o tal cruzamento que teoricamente deve ser feito, não fazer a tal contextualização que um bom trabalho de jornalismo exige, e de escrevermos um pouco à medida que as ideias nos vão ocorrendo, ou as interpretações dos acontecimentos nos vão ocorrendo. E, portanto, quando se lê isto, quando se lê este escrito jornalístico, que é uma escrita fragmentada, e muitas vezes uma escrita sem denouement, como diriam os franceses. Acontece com muita frequência, por exemplo, nós começamos a interessarmos enquanto leitores por uma crise, sei lá, num país qualquer africano. Então lemos aquelas notícias diariamente sobre aquele país africano, e de repente deixa de haver notícias, como se o acontecimento em questão tivesse desaparecido. Ele é, de alguma forma, empurrado para fora da atualidade por um outro acontecimento que vem. Portanto, há este risco sempre da pessoa seguir de muito perto um acontecimento, de não ter capacidade de o contextualizar, não ter capacidade suficiente para refletir sobre ele e para o relacionar com aquilo que poderá vir a seguir, e depois, de um momento para o outro, a história acaba abruptamente e o ouvinte, ou o telespectador, ou o leitor, fica desprovido do fim da história.
Mas, José Rebelo, o que é interessante também é que Portugal era raro. Bom, o jornal Le Monde era um pouco diferente, sobretudo a nível da luta dos povos das colónias. Estou a lembrar os artigos de Marcel Nidelang, etc. De maneira que, quando cheguei à França, era um leitor assíduo, porque é aí que eu encontrava muitas informações sobre isso. Mas o que é certo é que o 25 de Abril vem na sequência, alguns meses antes, em setembro de 73, do golpe de Estado de Pinochet, etc, etc, etc. Portugal e Espanha, ainda a Grécia, eram ditaduras, de maneira que aquilo parecia um ovni. Haveria qualquer coisa que aparece, o que é que se passa em Portugal, deixa de passar em Portugal. José Rebelo tinha já a vantagem que conhecia o país, mas mesmo para si, quer dizer, não sabíamos onde é que o país ia. Absolutamente nada.
Não, aliás, antes do 25 de Abril, houve o 16 de Março.
Exato.
Eu em Paris, que eu era exilado político em Paris, já estava no Le Monde, que eu entrei no Le Monde em 1972. Mas quando recebi as primeiras notícias dos acontecimentos das Caldas da Rainha, para ser franco, eu não atribuí grande importância àqueles acontecimentos. Pensei que era mais uma movimentação de generais e de coronéis, mas que não conduziriam necessariamente, não conduziria a uma libertação, à implantação e consolidação da democracia. Por isso, o 25 de Abril, visto daqui, quando eu estava aqui, foi de facto uma surpresa. No mundo houve grandes títulos, foi o Marcel der Gang, aliás, que preparou a primeira página do Le Monde, que era em grande parte dedicada ao 25 de Abril. Foi ele que preparou aquilo, e ele estava bem informado. O Marcelo der Gang tinha os seus contactos em Portugal já desde há uns anos.
E com os movimentos da libertação também. também.
Sim. Agora, o que diz é verdade. Aliás, foi talvez a razão que levou a que o 25 de Abril tivesse em França um impacto como raramente, como eu creio que não teve em qualquer outro país. Porque aqui em França, bom, quando se dá o 25 de Abril, os ecos do maio de 68 já tinham desaparecido. O Allende tinha sido assassinado um ano antes. A tentativa de Revolução Democrática em Praga tinha sido esmagada. O acordo de paz do Vietnã, da Guerra do Vietnã, que foi aliás assinado em Paris, punha fim a uma guerra que parecia interminável. Resultado, a intelectualidade francesa, nesta altura, estava em falência de grandes causas pelas quais se bater. E quando aparece o 25 de Abril, aquelas imagens começam logo a dar na televisão no dia 25 de manhã, assim, ao final da manhã, dos cravos, que era a flor da época, os cravos
nas
espingardas, os cravos nos canhões dos blindados. Bom, isso é uma imagem extraordinariamente forte. Uhum. E depois aquela mensagem que imediatamente se começa a ouvir sobre o movimento das Forças Armadas, que é a ligação entre o povo e as Forças Armadas, o povo na rua, que isso é indescritível, as imagens que foram transmitidas e aquilo que foi escrito e que foi dito nessa altura do povo que invadiu as ruas. Bom, essas imagens, e todos os condimentos estavam, portanto, reunidos para fazer da Revolução de Abril em Portugal, vista aqui de França, uma revolução com uma dimensão romântica também muito grande. Eu acho que foi isso que foi talvez um aspecto fundamental que entusiasmou a grande intelectualidade francesa e que fez com que Portugal, nomeadamente no ano de 1975, fosse um lugar de destino, porque muita gente queria ir ver sur place a revolução.
Sim, bom, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, podíamos continuar assim.
Outros,
José Rebelo, há quatro datas: 25 de Abril de 1974, 28 de Setembro de 1974. Ao que parece, um famoso jornalista desportivo teria sido encontrado, bom, isto é uma anedota, não é? Encontrado a conduzir uma carreta e no caixão estavam armas. Dia 11 de Março de 1975 e depois o 25 de Novembro de 1975. Aí surge a chamada normalização, entre aspas. Mas enfim, o que é certo é que são datas que marcaram, realmente, não sei se é uma dualidade de poderes, aliás o subtítulo do seu livro, Du pouvoir populaire au pouvoir parlementaire.
Exatamente.
Porque, ao mesmo tempo, estas datas marcam, evidentemente, quem detém o poder, quem luta pelo poder.
Exato.
É aqui que se pode passar, de maneira que, bom, altos e baixos, há mesmo, chegamos a um momento dado, digamos que podemos dizer que estamos à beira da guerra civil. De maneira que acompanhar estes acontecimentos e compreender aquilo que se está a passar para um jornalista que está a seguir isto tudo, não é nada evidente, José Rebelo.
Pois, não é evidente, mas de alguma forma nós, eu digo nós, porque estava integrado num grupo de jornalistas franceses e jornalistas de toda, havia um jornalista do L'Express, havia um jornalista do Nouvel Observateur, havia um jornalista da L'Humanité em Lisboa, dois que nessa altura trabalhavam para o Londres, em Lisboa,
em princípio estávamos todos no Hotel Mundial, não é?
No Hotel Mundial. E os acontecimentos eram tantos, diariamente, que nenhum de nós os podia cobrir integralmente. Portanto, cada um dos jornalistas estava mais relacionado, havia um mais ligado à direita portuguesa, havia um mais ligado ao PS, havia outro com maiores ligações ao PC, havia alguém também com maiores ligações aos militares. Nós jantávamos todos os dias e trocava-se opiniões sobre o que se tinha visto nesse dia e aquilo que se iria fazer no dia seguinte. E, no fundo, depois cada um reunia informações dos colegas e trabalhava, acho que como entendia. Porque, bom, eu sou um teórico, enfim, sou sociólogo
da
informação. Portanto, também depois passei a analisar muito estas questões de um ponto de vista teórico, não é? Uma das questões que imediatamente se põe é a questão da objetividade da informação. E o que é interessante quando se fala da objetividade da informação é ver como é que um grupo de 10 ou 15 jornalistas de orientações políticas completamente diferentes partiam das mesmas informações para redigir textos completamente diferentes também. Então qual era a objetividade? Cada um tinha a sua objetividade, não é? Mas essa questão das datas a que referiu, do 28 de setembro, do 11 de março, do 25 de novembro, mostra um aspecto muito importante do que se passou em Portugal. É que antes do 25 de abril, o 25 de abril não foi propriamente uma revolução levada a cabo por um grupo importante de militares que tinha um projeto político muito preciso para aplicar. Não. Naquele grupo de militares havia os objetivos mais diversos. Bom, havia por um lado militares altamente colocados, coronéis, generais e tudo isso, e que consideravam que o governo já não estava em condições de encontrar uma solução para a África, para as colónias africanas, uma solução que eles partilhavam, que era de uma independência relativa, de uma espécie de autonomia dentro de uma comunidade portuguesa. O livro de António Spínola, Portugal e o Futuro, deu corpo a esta tendência que existia em alguns sectores das altas esferas militares. Depois há jovens militares que não veem o seu futuro, acham que não lhes é dado um caminho que eles lhes parece que mereciam para terem um futuro que eles ansiavam. Mas depois também há muitos desses jovens militares que são, digamos, teoricamente endoctrinados por aqueles militares que não são de carreira, que são milicianos, que vêm da universidade, a maior parte deles
já têm uma consciência política.
Ideologicamente situados à esquerda e muitos então à extrema esquerda. Portanto, há no início militares de alta patente que tentam, digamos, organizar qualquer coisa de maneira a encontrar uma solução no quadro dessa autonomia relativa. Há jovens oficiais que pretendem progredir na carreira e que têm, portanto, objetivos corporatistas na sua reação em relação ao regime, e há militares já, com uma formação política avançada que pretendem derrubar mesmo o regime. Portanto, no 25 de Abril, há uma espécie de compromisso entre estas diferentes correntes. Os militares mais jovens que pedem o apoio dos mais velhos porque entendem que é preciso haver também coronéis e generais para dar legitimidade à sua própria ação. E os corporatistas que, os oficiais que reivindicam sobretudo uma melhoria da sua profissão, que pouco a pouco começam a pensar que a questão não está na sua profissão, a questão é mais vasta, a questão está no regime e que, portanto, é preciso abatê-lo. E depois os militares jovens, mas já, digamos, possuidores de uma cultura política profunda, que estão perfeitamente convencidos que o que é preciso é acabar com aquilo, sem saber muito bem que modelo seguir, sabendo aquilo que não queriam, que era o salazarismo.
José Rebelo, há dois pontos essenciais, pelo menos eu ao ler os seus artigos, eu lembro, já lá vão 50 anos, de mandar a cá ter recuo, porque não podemos analisar hoje aquilo que se passou em função daquilo que nós hoje pensamos. Mas enfim, há duas questões. É unidade sindical. Isso aí foi um primeiro...
choque.
O primeiro choque. E depois foi o programa de política económica e social.
Sim, sim.
Eu li, bom, isto está escrito por si, que é entre o capitalismo clássico e a coletivização. Ora, este programa foi adotado em 7 de fevereiro de 1965. De maneira que podemos dizer que aí, bom, aí aparecem, não digo as primeiras divergências, mas aí que futuro é que vamos dar à economia, finalmente? Bom, quando se fala de unidade sindical, temos de ter em questão a formação das comissões de trabalhadores, o controle operário, a autogestão, toda uma série de coisas que estavam a passar, e aí tem impressão que as discussões começaram a dizer para que regime é que vamos, não?
A unicidade sindical foi talvez a primeira expressão pública que a dado momento se começou a manifestar e a verificar num confronto político, sobretudo entre o Partido Socialista e o Partido Comunista. No fundo, o Partido Comunista era favorável à unicidade sindical, isto é, a uma única central sindical que centralizava toda a atividade central em sindical em todos os sectores de atividade. O Partido Socialista, pelo contrário, era favorável à existência de mais do que uma central sindical. Foi aí que apareceu a carta aberta, a UGT e a CGTP. Bom, foi esta segunda posição, aliás, que vingou. A CGTP não acabou por não ser a central única dos trabalhadores. Mas isto é o primeiro sinal que ocorre no início de 1975 dessa luta entre socialistas e comunistas que se ia intensificar extraordinariamente durante todo o ano de 1975.
E sobretudo a partir do mês de agosto, acho eu.
Mesmo antes, o caso República começou 19 de maio de 1965. O Programa Económico e Social, que era um programa dirigido por um grupo, preparado, elaborado por um grupo dirigido por um militar, que é o Ernesto Melo Antunes. Bom, e disse bem, o programa procurava encontrar uma solução entre um certo coletivismo
soviética, entre aspas.
Não muito. Não era aquela centralização total soviética. Havia uma espécie de mescla de poder do Estado com essas organizações de autogestão, essas comissões de autogestão, essas organizações que iam sendo criadas, enfim, com perfis muito diferentes e pelo país todo. Portanto, não era bem aquela centralização, digamos, cega, como se assistiu outros países. Falava-se muito da influência de modelos latino-americanos, mas era uma espécie de um ponto de encontro entre esse modelo, que era um bocado vago. Eu, quando digo que não era uma centralização absoluta, não pretendia sê-lo. Mas também, o que é que era sem ser isso? Bom, e por outro lado, algumas era um espaço entre isso e outros modelos mais próximos de uma sociedade democrática tradicional, com livre iniciativa e tal. Só que, uma ou duas semanas depois da elaboração deste Programa Económico e Social, foi a tal data que fez referência há bocado, o 11 de março, uma tentativa de alguma desse sector militar que procurava uma independência relativa das colónias, que era liderada pelo general Spínola. Essa tentativa de golpe de Estado, como aliás a do 28 de setembro, foi derrotada. E cada vez que essas tentativas eram derrotadas, a situação política radicalizava-se à esquerda. Portanto, a seguir, quando vem o 11 de março, há a nacionalização de todo o sector financeiro, de todos os transportes e de todas as empresas que estão ligadas aos grupos financeiros que tinham importância nessa altura.
Os Melos, Champalimaus, isso tudo.
Quase toda a comunicação social, bom, a televisão, nessa altura, já só havia dois canais e eram públicos. Mas depois há jornais, há estações de rádio e tudo isso. Fica um jornal que é o Jornal República, um outro jornal que é o Correio do Minho, de inspiração católica, uma emissora, a Rádio Renascença, também de De inspiração católica, porque aquilo que o governo procurava evitar na altura é uma crise com a Igreja, porque toda a gente, todos eles eram conscientes do poder que a Igreja tinha junto da população portuguesa. Por mais que ela se manifestasse na rua e erguesse bandeiras vermelhas, mas o catolicismo estava lá, fazia parte da raiz cultural.
No norte de Portugal. José Rebelo, podemos acompanhar este, faz um ano e meio, dois anos praticamente, porque algo que é importante, e eu aconselho os nossos ouvintes a ler toda a parte respeitante ao Conselho da Revolução, que foi criado no dia 14 de março de 1975.
E que manifesta já essa radicalização do regime. É a partir desse momento, com a criação do Conselho da Revolução, que um sector das Forças Armadas passa a ter um órgão supremo de decisão política.
Sim, com efeito, eles têm poderes constituintes, o controle da atividade do governo, têm vastos poderes militares, podemos continuar assim, mas o melhor há que ler, porque, bom, e também... os artigos também temos um facsimile, para falar português, precisamente desses artigos, coisas interessantes que eu tinha, recortes desses jornais, mas para Deus, de maneira que vou comprá-los aqui. José Rebelo, vamos terminar, é o epílogo. O epílogo, a revolução possível e lúcida. Maneira que eu faço a pergunta, será que este título não está em contradição com o desenho de Plantu? O primeiro desenho é uma peixeira em 1970.
Está.
O segundo desenho, 1974, aí são os militares, não sei, com os jornalistas a filmá-los. E depois, 1980, voltamos à peixeira.
Pois, vamos lá ver. Há também um objetivo no livro de não, enfim, de abrir vários caminhos. Uhum. E o fim abre esses caminhos. Há um artigo de 1982, que é aquele em que o Le Monde fala da dissolução do Conselho da Revolução.
Correto.
Em que se fala, no fundo é um artigo que revela uma certa amargura de todo de todos aqueles que sonharam em fazer alguma coisa diferente. O que exatamente podia não saber, mas o que se queria fazer uma coisa diferente, uma democracia, mas que não fosse uma democracia representativa tradicional. Bom, é um fim das utopias, que há uma canção do Zé Maia Branco, é o Eu Vim de Longe, que manifesta bem esse fim das utopias.
Eu vou passar no final desta entrevista.
Pronto. O desenho, a série de três desenhos do Plantu ilustra isso, que é no primeiro desenho. Eu sei, os turistas com a mala cheia de carimbos, já de idade, pessoas que o desenho mostra, vêm de um certo sector da burguesia, que vão a Portugal porque tem boas praias, porque o clima é agradável e tudo isso, e vão ver os monumentos, os Jerónimos, porque se falou muito nas descobertas, século XVI, XV, XVI, etc. Depois, a segunda fotografia, já não são esses turistas já de idade mais avançada e com a mala carregada de carimbos de hotéis, são jovens cabeludos, com mochilas às costas, e que na frente deles, e quem eles saúdam, já não é Varina com a canasta à cabeça, são os jovens militares com os cravos ao peito. Bom, isto é a segunda fotografia. A terceira regressa ao início e são os mesmos turistas, de idade avançada, com as malas de viagem, com os carrinhos dos hotéis, que olham, que admiram e que fotografam a Varina, tendo os Jerónimos ao fundo. Portanto, este conjunto de desenhos do Plantu revela essa espécie de nostalgia de alguma coisa que já acabou. Isto por um lado. Por outro lado, nós quisemos, terminámos o texto com uma expressão que refiro há bocado, que é uma expressão de Eduardo Lourenço, da revolução lúcida e possível, que é uma, digamos, é a negação da utopia, é o reconhecimento da realidade, da realidade tal qual ela se nos impõe, e portanto que não podemos ir para além daquilo que é possível no contexto social. Portanto, há aí duas visões, e nós quisemos que essas visões estivessem sempre presentes no livro.
José Rebelo, obrigadíssimo, bem-haja, e 25 de Abril sempre.
Pá.
Obrigadíssimo.
Muito obrigado, meu.
que chegou. Quando o mês de maio começou, eu olhei para ti e então eu entendi. Foi um sonho mau que já passou, foi um mau bocado que acabou. Tinha esta viola numa mão, uma flor vermelha noutra mão. Tinha um grande amor marcado pela dor, e quando a fronteira me abraçou, foi esta bagagem que encontrou. Eu vou para longe, para muito longe, onde nos vamos encontrar com o que temos para nos dar. E então olhei à minha volta, vi tanta esperança andar à solta, que não hesitei, e os hinos que cantei foram frutos do meu coração, feitos de alegria e de paixão. Nossa festa se estragou, e o mês de novembro se vingou. Eu olhei para ti e então eu entendi. Foi um sonho lindo que acabou. Houve aqui alguém que se enganou.
Voltamos aqui ao direto, José Maria Branco, ouvindo longe, eu vou para longe, mas vamos falar de outra coisa. Changer de mudar de vida, Pedro Fidalgo, boa tarde, obrigado por estar em direto connosco.
Boa tarde.
Ora, Pedro Fidalgo, precisamente, Changer de vida, mudar de vida, a vida e a obra de José Maria Branco. A projeção vai ser no dia 4 de maio, às 18 horas, onde no Ciné Malraux de Bondy, 25 Cours de la République. Tarifa única, 4 euros, nem mais nem mais, nem menos, queria dizer, com a presença de Pedro Fidalgo. Talvez, resumidamente, relembramos precisamente este documentário, porque através da vida e da obra de José Mário Branco, finalmente em filigrama, aparece a luta contra o fascismo, aparece a resistência e, sobretudo, é também a nível da cultura que podemos ver a influência que pode ter a música e os poemas na modificação de uma situação, não é?
Sim, é um filme que já tem algum tempo, não é? Que tinha estreado há 10 anos, após 40 anos de 25 de Abril, mas tem sido, para a personagem de José Mário Branco, para aquilo que ele representa, continua a ter vida e continua a ser projetado sempre. E é verdade que a França teve muita pouca visibilidade, e agora há esta oportunidade de as pessoas virem a um ciclo de cinema que se está a organizar em Bondy, no cinema Cinema de Rol. Vai haver esta projeção no dia 4, seguida de uma conversa em presença dos realizadores, neste caso eu, e um petit pouco que se organizará no fim. E depois, no dia 10 de maio, também vai haver a projeção do filme, de dois filmes, de José Vieira. Uhum. Dia 10 de maio vai ser às 18 horas, é uma sexta-feira. E donc José Vieira será presente aussi. Ele assinará seu novo livro, Futur dans Souvenir d'un futur radieux, et Et il y aura aussi, voilà, je vous en ai dit, une conversation avec les réalisateurs. Il y aura deux films, donc c'est La Photo déchirée, que certaines personnes connaissent déjà, et un court-métrage moins connu qui s'intitule Les Chants du Déserteur.
C'est quoi exactement ce court-métrage?
Et c'est un court-métrage qu'il a fait il y a longtemps aussi, où il, avec des témoignages de Tina Flores et d'autres personnes qui ont autour de la chanson d'opposition au régime et à la guerre coloniale.
Peut-être qu'il faudra qu'on enchaîne en français, c'est peut-être plus simple pour tout le monde. Justement, Changer de vie, c'est un film qui a été diffusé au Portugal, donc il a tourné du nord au sud du Portugal, mais ça concerne la télé. Apparemment, la télé aurait passé un autre film et uniquement des petits extraits de Changer de vie qui a été co-réalisé, je m'excuse, par Nelson Garrett et Pedro Fidalgo. Un bonjour, un grand bonjour à Nelson. Justement, parce qu'apparemment, la télé portugaise avait du mal à comprendre qu'on puisse avoir un autre point de vue de la vie, de l'œuvre de José Maria Branco, qui était complètement différente chez eux, parce qu'ils sont au Portugal. Et Pedro Fidalgo, bon, il connaît la France, il vit la France. Donc c'est un regard complètement différent par rapport à José Maria Branco.
Pour la télévision, c'est la version qui a été sortie à la télé, c'est une version plus courte, donc de 52 minutes. Elle a été faite pour intégrer une durée monoformatée de télévisuelle. Donc c'est pas tout à fait le même film, hein. C'est d'accord. Pas du tout la même chose.
D'accord. Et mais le film, justement au Portugal, comment est-ce qu'il a été reçu? Parce que c'était, comme je dis, c'était un regard à l'extérieur. C'était pas un regard de Portugais du Portugal. Les gens, ils sont interrogés parce que peut-être qu'ils voient pas la situation avant le 25 avril, après le 25 avril, le retour. Bon, je parle de Jean-Marie Branco, mais de Serge Goudin et tant d'autres, Louis Chili, qui sont rentrés au Portugal, retournés au Portugal. Donc, ça a suscité des débats, des discussions?
Bien sûr. C'est un film qui a apporté quand même, déjà à l'époque, là, aujourd'hui, José Maria Branco est très chanté. Donc là, je suis au Portugal en ce moment. J'ai été ici pour le 25 avril cette année. Et effectivement, tous les jeunes aujourd'hui, tous les jeunes qui s'y intéressent un peu, ils connaissent José Maria Branco, chantent José Maria Branco. On a encore projeté les films hier dans une occupation. Donc tout ici continue. José Maria, il est vivant. Il est dans, je dirais même plus maintenant qu'avant. Le film, voilà, ça a servi à ça aussi, à faire connaître plus José Maria, à montrer bon, l'utilisation d'images d'archives de lui en France pendant son exil. Ça a aussi beaucoup touché des gens, parce qu'effectivement, une chose, c'est entendre parler, une autre chose, au lire, une autre chose, c'est voir les personnes comme elles étaient, comment elles s'habillaient, bon. Et donc, déjà, j'aime beaucoup ce film, mais il continue toujours de temps en temps. Il y a quelqu'un qui le demande encore. Il y en a eu, là, encore au Portugal, récemment, de 3 ou 4 projections. Donc, voilà. Donc, c'est même 10 ans après, ça continue un film vivant.
Non, mais complètement. Parce que quand on parle de Jean-Marie Branco au Portugal, il y a le GAC. Au groupe là, sans contrôle. Mais parallèlement, il y a le fado, il y a toutes les orchestrations, tout le travail qu'il a fait Jean-Marie Branco jusqu'au fado. Il y a des gens qui méconnaissent complètement. C'est la palette, c'est un truc incroyable, Jean-Marie Branco.
Oui, bah, le fado, effectivement, il a beaucoup apporté au fado. Lui ne venait pas du tout, en tant que chanteur de Porto, ne venait pas du tout de la culture de fado. D'ailleurs, il s'y opposait même un peu.
Au début,
quand il était en exil, mais une fois qu'il a vécu à Lisbonne, qu'il a côtoyé les grands artistes de fado, lui-même s'est mis à composer, et on peut dire que de nos jours, tous les grands artistes de fado ont voulu, d'une manière ou d'une autre, même si ça ne s'est pas fait tout le temps, travailler avec José Maria Branco pour qu'il leur fasse les arrangements. C'est le cas de Camanet, Marco Oliveira, Aldino Duarte.
Et tant d'autres. Mais Pedro Fidalgo, moi parfois j'ai peur des hommages, parce que en règle générale, ça arrive souvent, c'est pas en règle générale, ça arrive souvent, quand on fait des hommages, c'est un enterrement de première classe, à savoir on fait un hommage à une personne, mais on oublie tout ce qu'elle a représenté, tout ce qu'elle a fait. Et surtout, bon, Jean-Marie Branco, c'est la lutte contre le fascisme, hein, il faut pas l'oublier. Et il n'y aura pas une tendance, quand on fait des hommages, de gommer la partie la plus importante, la vie de la personne?
Non, pour une seule raison, c'est que le film est fait pendant qu'elle est vivante et avec elle. Donc les choix sont faits ensemble. ce qui fait que donc nous mettons ce qui nous intéresse à nous en tant que réalisateur et ce qui est aussi convenable pour l'auteur artiste, ce qui on demande toujours un avis s'il n'y aurait pas des choses qui pourraient être plus intéressantes qui manqueraient. Dans le cas de José Mal, bon, il n'a pas trop, il n'avait pas eu trop d'intervention là-dedans, il nous a laissé faire un peu. Je vous fais confiance, faites comme vous trouvez faire le mieux. Et effectivement, lui, il avait dit, il vous a demandé qu'est-ce que t'en penses. Il y a tout dedans, bien sûr qu'il n'y a jamais tout, mais voilà, il trouvait que l'essentiel était là. Donc, bon, on n'a pas, ce qu'on a gommé, c'est les années après ce film, les dernières 10 années, parce qu'il est décédé en 2019, un temps. Et donc, ces années-là, effectivement, avec tous les artistes de Fado qui l'a accompagné, notamment le travail qu'il a fait avec Marco Rivel, ça, on n'a pas pu aborder dans le film, parce que le film était déjà fait.
Déjà fait. Bon, Pedro Fidelanque, tout à l'heure, vous avez parlé justement de la projection de Mudar de Vida. Ça a été le 25 avril. Justement, alors, process revolutionario d'occupation en course, ça fait rappeler le prêt que ça. Mais enfin, au lieu de c'est à O. Justement, c'est occuper un bâtiment qui a été abandonné, justement, pour un nouveau centre social. Ça fait rappeler le 25 avril, hein, quand on a occupé les maisons vides, les commissions numérodores, etc., etc., 50 ans après.
Oui, ça fait penser surtout aux occupations qu'il y a eu aux années 90, parce qu'il y en a eu beaucoup aussi à ce moment-là. Il ne faut pas oublier que, bon, les villes sont devenues très chères. Beaucoup de bâtiments sont vides, il y en a plein, de la spéculation immobilière ne sert à rien. Et effectivement, oui, heureusement, il y a des gens qui se disent qu'il faut donner de la vie à des endroits. Et pour le coup, donc, cette action menée depuis, elle est importante. Voilà.
Voilà, une petite référence, et je vais faire un petit coucou, et merci d'avoir été en direct avec nous, Pedro Fidelanque. Savoir avec le festival de BD à Beja, au sud du Portugal, dans la mesure, bon, non, pas que je vois ce geste. Là, on parle Dominique Grange. Ça va être projeté. Alors, parce qu'il faut dire, derrière ça, il y a une BD de notre cher Tardy. Et donc, le lien est fait entre le film et la BD. Hein.
Oui, exactement. Oui, ça sera en juin. Donc, on viendra à Beja présenter ce film. Ce sera le 7 juin au Pax Julia, le cinéma Pax Julia. Mmh. Et voilà. Mais pour l'instant, là, c'est le 4 mai. Je vais m'aller blanc à 18h à Bondy.
Tout à fait, oui. Alors, Ciné Malraux de Bondy, 25 cours de la République. Merci, Pedro.
Et allez, c'est merci bon. À tous.
On va passer la bande-annonce de Changer de vie. Mudar de vie. Bon, j'arrête de chanter, autrement il va pleuvoir. Merci, Pedro.
Merci bien. Au revoir. Merci.
Nos anos 20, do século do mesmo nome, para tentar deter o flagelo social da sífilis, que dizimava pobres e exércitos, o biólogo alemão Ehrlich fechou-se no laboratório. Tentou uma experiência e falhou. Tentou duas, falhou. Três, quatro, cinco, seis, falhou sempre. Até que conseguiu um tratamento. Chamou-se Tratamento Ehrlich 606. Mas ainda não conseguia curar a doença sem matar o doente. Então Ehrlich continuou. Mais uma, e outra, e outra. A cura, finalmente conseguida, chamou-se Ehrlich 914. Quantas vezes já tentamos nós mudar de vida,
mudar de vida,
mudar de vida,
mudar de vida, para morrer a morte, mudar de vida, mudar de vida, romper o cordão da sorte.
fundo da estrada, duas léguas de nada. Não sei que força me mantém. É tão cinzenta a manhã e a saudade para mim, e o verão nunca mais vem. Quero ir para casa, embarcar no golfo de asa, pisar a terra em brasa, que a noite já aí vem. Quero voltar para os braços da minha mãe. Quero voltar para os braços da minha mãe.
Um pouco de terra cheira a pinheiro e a serra.
Um extrato precisamente para os braços da minha mãe, Pedro Brunhosa, e o coral Os Camponeses da Pias, e vamos precisamente até o Alentejo, andamos a passear em França, estivemos igualmente em Lisboa, descemos um bocadinho. António Lebre, boa tarde e muito obrigado por estar em direto connosco e desacordar alguns minutinhos.
Muito boa tarde, para si também. Muito obrigado então, pelo convite também.
Com certeza, coordenador do grupo de canta Os Camponeses de Pias. Ora, talvez virou essencial, porque ao que parece o reconhecimento pela Unesco do canto alentejano ser o património imaterial, isto desde 2014, parece que dignificou o canto alentejano. Ele já tinha toda a sua dignidade, mas tem pessoa que em Portugal muita gente teve à espera, ou foi obrigada a reconhecer a dignidade do canto alentejano. Depois da Unesco o ter reconhecido também?
Sim, em parte sim, veio dar mais um esforço ao canto, veio dar mais peso. Sim, para os camponeses pias, nós, eu até costumo dizer de vez em várias entrevistas, continuamos a fazer o mesmo trabalho que tínhamos a fazer. Com alguma projeção, com alguns palcos diferentes, sem dúvida. Também vamos estando com outro tipo de artistas, as exigências vão sendo maiores. Mas acho que o canto alentejano tem capacidade para isso tudo. Ou seja, é tão diverso e tão um horizonte tão alargado que não precisa de estar só dentro da vitrine. Podemos cantar o canto puro e duro, que é o que nós temos, a nossa história rege-se por aí, mas também podemos abrir os horizontes a tudo aquilo que, aqueles projetos que podemos dar assim um bom palco ao canto, dar-lhe uma imagem, dar-lhe aquilo que o canto merece, que é ser mostrado ao mundo, e isso sim o dote que foi dado pela Unesco, certamente lhe vai dar muito mais peso.
Ora, alguém de importante, bom, eu estou fora daí já há meio século, mas enfim, o que me dá a impressão é que a juventude alentejana tomou em mãos o canto, é como quem diz, há um património a defender, isso faz parte da vida dos montes no Alentejo. Corresponde a uma realidade?
Sim, sem dúvida. Houve muitos grupos, inclusivamente, fui coordenador também de um, que eram os Mainantes, que são aqueles projetos que a gente sabe que os miúdos, na altura, interessaram-se pelo canto. Aliás, acho que o canto está dentro do alentejano. Não é hoje, é amanhã, é despertar. E nós, os jovens hoje em dia, sem dúvida, nos camponeses temos alguns jovens que vieram, transitaram dos Mainantes para os camponeses, e ainda lá estão. Certamente sei que daqui por mais 10 ou 12 anos, quando tiverem a vida devidamente estabilizada e quando tiverem todos organizados, os estudos acabados, a vida fixa, que vão voltar, porque tudo isso faz com que o canto vá sempre andando para a frente. Ou seja, os nossos vindouros deixaram-nos, mas as gerações, ou seja, os antepassados deixaram-nos, os vindouros irão dar a continuidade a isto. E foi o que aconteceu comigo e irá acontecer com estes jovens. E sem dúvida que foi muito importante eles perceberem que o canto é deles, é do Alentejo, mas já está no mundo, e isso abre um horizonte muito mais alargado.
Sim, mas António Lebre, no entanto há um problema enorme, a desertificação. Há o problema das velhas gerações, que nos vão deixando aos poucos e poucos, e quando se vê a situação económica de Portugal, mas mais concretamente no Alentejo, digamos que é uma... é um país, eu chamo o Alentejo, para mim é um país, ponto final ao parágrafo, de maneira que parece que é uma parte de Portugal que é sacrificada, já o era e era amordaçada no tempo do fascismo,
exatamente.
De maneira que parece que há esse abandono, como se é verdade que o povo alentejo tinha o costume de dizer, pelo menos é o que eu digo, mais vale partir do que torcer, não, as árvores morrem de pé. Quer dizer, o Alentejo é vítima disso tudo.
Sim, o Alentejo é vítima, sem dúvida que estamos, olha, neste momento acabou de dizer uma situação que é mais que real, estamos a atravessar os 50 anos de Abril e isso veio fazer com que tivéssemos todos uma abertura muito grande. Mas sim, mas o Alentejo, sem dúvida o Alentejo vai sendo desidentificado, porquê? Porque não temos indústrias, não temos onde fixar os jovens, portanto, isso, tudo isso faz com que eles tenham que sair dali. E o sair dali faz com que também nós, os efetivos dos grupos, levantando carenciados. Portanto, é todo esta envolvência da desertificação e de não estabilizar grandes indústrias no Alentejo, que temos tanta área, mas continuamos a construir, continuamos a levar tudo para as grandes urbes, e aí, pronto, é aí que gera a economia, e nós, pronto, aqueles que vamos ficando, vamos vivendo da forma melhor que podemos, enraizados àquilo que, onde nascemos, mas sabemos que os jovens não os conseguimos prender. É impossível, tenho filhos, e isso irá acontecer, sem dúvida, quando acabarem os estudos, que não terão seguimento em Pias, não é? Portanto, tem que sair de...
Mas, António Guilherme, para terminar, ainda duas perguntas, peço desculpa, mas o corte de Sobreiros. Eu lembro-me da região de Odmira, andei pelo rio Odmira acima, houve um incêndio, em vez de replantarem Sobreiros, plantaram eucaliptos. Hoje há empresas multinacionais, a começar pelos espanhóis, que compraram centenas de hectares no Alentejo. Significa, o que é que se está a passar nesse país? Um monte...
Pois, é isto mesmo que está a acontecer. Está a crescer uma parte de crescimento que existe no Alentejo neste momento, está gerida por culturas intensivas e super intensivas. Ou seja, deixou de haver isso mesmo que eu vou dizer, o corte do Sobreiro, o corte do Olival, para passarmos a mecanizar tudo. Se me disser que há emprego, há, sem dúvida. Não trabalhará ali na nossa zona, quem não quer, porque há emprego. Mas sim, houve uma paisagem que desapareceu, aquelas planícies que nós estávamos habituados a ver, pouco existem. Portanto, isso também faz com que, pronto, a parte económica estará acima de tudo, né? Isto é... É complicado.
Dizem que é o progresso, mas enfim, quando se vê os espanhóis que produzem os porcos portugueses e depois levam aquilo e chamam-lhe que pata negra, mas enfim, é outra história. Sem esquecer, exatamente, os salários, faz lembrar os trabalhadores agrícolas do Alentejo antes do 25 de Abril, tinham salários de miséria e só durante alguns meses no ano, e hoje vê-se a escravatura que há de muitos imigrantes. Mas enfim, para terminar, bom, temos encontro aqui marcado, António Lebre, no dia 8 de maio, na sala do Olímpia, não é?
Olímpia, sim, será pela primeira vez o Cantalente Júnior irá pisar esse grande palco, essa grande sala, e nós estamos orgulhosos de pisá-la com o Pedro Brunhosa, que é um grande amigo, um homem que nos tem dado muito, temos crescido muito ao longo destes anos que estamos a trabalhar com ele, com o Comitê Caviar, com a Sons em Trânsito, sem dúvida, que nos apoia em tudo aquilo que nós fazemos. Portanto, e é isto... Aproveitar também estes projetos para podermos dar ao mundo aquele canto que nós fazemos, aqueles que ainda resistimos cá. Portanto, o canto é uma forma de resistência, né? E ele só ele já é resistente, porque conseguimos ir aguentando com os detetives entre 24 e 25 elementos por grupo, que é muito bom. Aqueles que ainda conseguem estar na terra e conseguem, não digo perder o tempo em prol do canto, mas sim levarem esse tempo da melhor forma e nunca deixarem perder aquilo que os nossos antepassados nos deram. E isso para mim é um grande orgulho, sem dúvida, mas também dizer-lhe que vamos estar dia 8 no Olímpico, mas também vamos estar em Sávio, numa população mais pequena, convidado pela Câmara de lá, foi através de Carlos Balbino, um cantador de Paris, que é português, também nos deu aí um grande apoio para a logística de ficarmos nessa cidade também. Portanto, isto é mais uma aventura que o canto vai passar. E estarmos em Paris, sim, onde ele foi enaltecido como Património Material da Humanidade,
num ano em que estamos a atravessar o décimo aniversário, para nós é sem dúvida um grande orgulho.
Obrigadíssimo, António Lebre, coordenador do grupo de cantos camponeses da Pias. Eu tenho o hábito de dizer, a ser orientejano é uma maneira de estar na vida.
Exatamente, é uma forma de ser e estar na vida.
Obrigadíssimo.
Um grande abraço para ti e até breve. Muito obrigado.
Obrigado igualmente ao Manuel Santos. Estamos a chegar ao termo desta emissão do dia 28 de abril. E para a semana, as barreiras da passagem de nível estão fechadas, meus amigos. Nem mais nem menos. Mas enfim, bom, bem-ajam. E nada melhor do que voltarmos a ouvir o Pedro Brunhosa e os camponeses da Bias, sobretudo que a voz que ouvem é de um rapaz que não deve ter mais de 12 ou 13 anos. Extraordinário. Bem-ajam.
Eu fui da estrada duas léguas de nada. Não sei que força me mantém. É tão cinzenta a Alemanha e a saudade para mim. E o verão nunca mais vem. Quero ir para casa, embarcar no Golfo de Asa, pisar a terra em brasa, que a noite já aí vem. Quero voltar para os braços da minha mãe. Quero voltar para os braços
da minha mãe. Um pouco de terra cheira a pinheiro e a serra. Vou poupar no beiral. Fiz 20 anos no chão na noite de Amsterdã. Comprei